Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. Je m'appelle Steven Jambeau et on est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. La semaine de la presse et des médias dans l'école s'achève en France par un reportage dans un lycée parisien et avec l'interview de la directrice de la Maison des journalistes, nous parlerons de l'opération Renvoyé spécial. Le principe, c'est que des journalistes exilés réfugiés en France vont à la rencontre des lycéens pour parler de leur expérience, les sensibiliser à la cause de la liberté de la presse et à la défense des démocraties. Mais avant cela, nous allons mettre en avant un long format multimédia réalisé par RFI.
Atelier@rfi.fr.
Bonjour Aurore Lartigue.
Bonjour Steven Jambeau.
Vous êtes journaliste au service Nouveaux Médias de RFI et vous avez réalisé un long format intitulé « Un océan de câbles » que l'on peut consulter sur le site internet de RFI. Alors ces câbles, ces fameux câbles, ce sont ceux qui permettent de faire transiter des données d'un continent à un autre. Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter comment vous est venue l'idée de travailler sur ce sujet ?
En fait, je suis parti de l'idée un peu commune qu'on se fait de l'internet, une idée assez virtuelle, justement avec tous ces termes un peu trompeurs. On parle beaucoup de virtualité, de cloud, de dématérialisation. Et en fait, tout ça est vraiment trompeur puisque derrière ces mots, il y a toute une infrastructure et même une infrastructure très lourde, bien réelle et bien palpable. Puisqu'il s'agit d'énormes tuyaux qui passent donc sous les mers.
Question bête, à qui appartiennent ces câbles? Aux géants du web?
Alors, c'est pas du tout une question bête, c'est une question assez complexe. En fait, ils n'appartiennent pas aux États. Quand des endroits veulent se connecter entre eux, traditionnellement, ce qui se passait avant, c'est que des opérateurs télécoms comme Orange ou Vodafone se fédéraient en consortium pour financer ces câbles qui coûtent et qui coûtaient surtout très cher et se partager après la capacité du câble, ce qui donnait des câbles qui cabotaient, on va dire, souvent dans une dizaine de pays tout au long de la route. Aujourd'hui, les choses sont un peu en train de changer depuis quelques années puisque on voit que les géants du web, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, sont en train d'investir sur ce marché, puisqu'en fait pour eux c'est tout bénef, on va dire, puisque eux ils ont d'énormes capacités d'investissement, ça coûte très cher, ils ont surtout d'énormes demandes en bande passante, donc d'énormes besoins, ils sont très gourmands, on va dire. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir leur propre tuyau, on va dire, leur propre câble internet pour pouvoir faire passer leur contenu et surtout pour pouvoir le faire passer des endroits où ils veulent à d'autres endroits où ils ont encore très envie d'amener ces flux.
Est-ce que certaines régions du monde sont plus câblées que d'autres et l'Afrique notamment est-elle bien connectée ?
Alors oui, clairement, ce qu'on voit aussi en travaillant sur le sujet, c'est que clairement, en fait, ces câbles ne sont pas posés au hasard, loin de là, ils correspondent, au pôle d'influence du monde, on va dire. On voit très bien que la route transatlantique entre les États-Unis et l'Europe est une des routes les mieux fournies en câbles. S'est développée plus récemment la route transpacifique, avec l'Asie évidemment, et plus récemment l'Afrique et l'Amérique du Sud. L'Afrique est, on va dire, maintenant assez câblée au niveau des câbles sous-marins, c'est en tout cas ce qu'on m'a expliqué. L'Afrique de l'Est est encore en train de s'équiper, l'Afrique de l'Ouest avec son câble ACE qui part de l'Europe sera bientôt elle aussi, optimale au niveau des câbles sous-marins. Le problème maintenant, c'est à l'intérieur des terres, où là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, ces câbles sous-marins, c'est ce qu'on m'a expliqué, ne sont pas utilisés à leur capacité maximale, parce qu'en fait, sur Terre, les infrastructures ne suivent pas. Et donc, maintenant, c'est sur Terre qu'il va falloir faire des efforts, construire des data centers ou des réseaux qui permettent d'acheminer les données sous la terre cette fois.
Ce que vous abordez également, c'est le fait que ces câbles pourraient devenir une cible de choix en cas de conflit.
Oui, alors en tout cas, c'est une inquiétude qui est évoquée régulièrement par des responsables de sécurité de l'OTAN américain, britannique. En fait, on voit que c'est une infrastructure, donc ça n'a rien de virtuel. Donc, en tant qu'infrastructure palpable, réelle, ça a forcément des fragilités. Alors, en cas de rupture, ça dépend. Qu'est-ce qui se passerait si vous êtes sur une île où vous avez un seul câble, comme ça s'est passé au Tonga fin janvier? Là, les conséquences, souvent, elles sont graves. C'est-à-dire que vous perdez l'essentiel de vos capacités Internet, mais aussi les appels internationaux, la capacité à téléphoner d'un continent à l'autre, et tous les services liés à Internet. Donc le paiement par carte bancaire, tous les transferts d'argent, tout ce qui va avec Internet. Et on sait qu'Internet, aujourd'hui, est indispensable. Voilà. Après, si vous êtes dans un pays très connecté, et c'est là l'enjeu, tout l'enjeu, comme un pays d'Europe, comme la France par exemple, s'il y a un câble qui se rompt, avec ce qu'on appelle la résilience, ce qui va se passer, c'est que le réseau va se réorganiser et vos données vont passer sans doute probablement par un autre câble.
Merci Aurore Lartigue.
Merci à vous.
Et je rappelle que votre long format Un océan de câbles est à lire sur le site de RFI.
Enquête Action, c'est un média qui fait de l'enquête sur les actions du gouvernement, de la société civile, des acteurs politiques et économiques. Mais on fait des enquêtes pour susciter des actions.
Bravo à Enquête Action. Le site d'investigation haïtien a remporté cette semaine le premier prix francophone de l'innovation dans les médias, fruit d'un partenariat entre l'OIF, Reporters sans frontières et RFI. Bravo aussi à la communauté de blogueurs burundais Yaga, arrivée deuxième, et enfin aux nouveaux médias en ligne franco-réfugiés Giti News, dont on vous parlait en longueur dans notre émission du 26 janvier.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Je suis Darline Cottière et je suis directrice de la Maison des journalistes.
Darline Cottière, avec la Maison des journalistes, vous faites intervenir des journalistes étrangers réfugiés en France dans les écoles et dans les collèges et dans les lycées en France. Pourquoi cette démarche ?
Alors tout d'abord, la Maison des journalistes accueille des professionnels de l'information qui ont dû fuir leur pays pour avoir exercé leur métier librement, ou du moins pour avoir tenté de le faire, tenté de nous informer, de nous dire la vérité. Et en plus de l'accompagnement, de l'accueil et du soutien que nous apportons à ces journalistes, nous avons à cœur de sensibiliser les jeunes, en particulier au respect de la liberté de la presse, de faire un travail d'éducation aux médias. Donc on a mis en place un programme qui s'appelle Renvoyé spécial. Nos journalistes, ils vont intervenir dans des salles de classe. Ça ne se passe pas sous la forme de conférences, mais c'est vraiment à partir de leurs témoignages, à partir de leur parcours d'exil qu'on arrive à faire ce travail. Depuis les attentats de Charlie Hebdo en 2015, nous avons élargi notre dispositif pédagogique à d'autres thématiques, en plus de la liberté de la presse. On a introduit des thématiques comme le vivre ensemble, la laïcité, parce que on pense que c'est très important, surtout dans le contexte actuel, d'éveiller la conscience des jeunes sur ces questions-là. Donc nos journalistes renvoyés spéciaux, ils ouvrent un dialogue constructif, on va dire, sur ces problématiques. Et ils sillonnent toute la France. Il y a 2 ans, on a un journaliste qui était à l'île de la Réunion pour rencontrer des jeunes. Donc pour l'instant, tous les départements, donc toutes les académies, pour parler du public lycéen, ont déjà reçu un renvoyé spécial. Et là, pour la semaine de la presse et des médias à l'école, on a prévu tout un ensemble de rencontres spéciales pour pouvoir marquer cette semaine de la presse et des médias à l'école, qui est très importante, une semaine où on peut, où on se mobilise justement pour éduquer les jeunes à ces valeurs-là.
Justement, les jeunes, quelles sont leurs réactions quand ils ont un renvoyé spécial en face d'eux ?
Alors, vous savez, on se rend compte que la parole d'un journaliste étranger, quelqu'un qui n'est pas issu du système médiatique français, ça provoque un déclic dans la plupart du temps. Parce qu'il y a une grande méfiance vis-à-vis des journalistes en ce moment. Et le fait d'avoir quelqu'un qui a subi la répression dans sa chair, quelqu'un qui a été confronté à des situations assez dramatiques dans l'exercice de son métier, quelqu'un qui avait mis la plume dans la appelait, pour reprendre cette célèbre expression du grand reporter Albert Londres. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont beaucoup plus attentifs parce qu'il y a la dimension humaine qui est mise en avant, parce que ce sont des personnes qui ont vécu, pour la plupart d'entre eux, des traumatismes assez importants, parce qu'il y en a qui ont été emprisonnés, il y en a qui ont été torturés, il y en a qui viennent de zones de conflit. En ce moment, c'est beaucoup de Syriens, c'est beaucoup de Yéménites, depuis la crise au Yémen, depuis cette guerre civile qui a éclaté en 2014. Donc voilà, donc nos journalistes yéménites et tous les autres, bien sûr, ils continuent de témoigner et de se mobiliser en faveur de la liberté de la presse. Donc, avec leur témoignage, ça ouvre le champ, ça ouvre les perspectives, et on voit que leur perception des journalistes et du journalisme en général change.
Alors justement, Camille Sarrazin, de l'équipe de l'Atelier des médias, était au lycée Émile Dubois, dans le 14e arrondissement de Paris. Une classe en particulier y étudie les médias. Jeudi matin, un renvoyé spécial est venu voir ses lycéens.
Je vais parler en arabe. Et il y a notre amie Lise qui va m'aider avec traduction. Donc je vais commencer.
La personne que vous entendez s'appelle Samir Al-Doumi. C'est un photojournaliste venu de Syrie. Il a fait ses premières photos au début de la révolution syrienne, en 2011. Sur place, il travaillait pour l'AFP. Il a même remporté le célèbre prix World Press Photo en 2016. Mais il a dû quitter la Syrie en 2017. Écoutons la réaction des lycéens suite à son intervention.
Je me suis dit qu'elle avait du courage, parce que c'est pas tout le monde qui va oser faire ça et tout, prendre des photos du pays, de voir que tout est détruit, se dire qu'on peut se faire bombarder à n'importe quel moment, essayer de passer des frontières alors qu'on peut se faire tirer dessus. Il faut avoir du courage pour faire ça, et franchement...
Ça a été touchant. J'en ai appris un peu plus sur la Syrie, parce que avant, enfin, je savais un peu ce qui se passait, mais pas en plus approfondi. Et là, j'en ai appris sur... il en a parlé sur ses sentiments, ce qui se passe réellement. Que dans le monde, personne ne se préoccupe vraiment de la Syrie et que personne ne leur vient en aide. Et lui, il veut se battre pour son pays et sa famille et pour tous les citoyens de la Syrie.
Jusuro, il nous fait comprendre certaines choses que nous, on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est vrai que ça nous permet de voir la chance qu'on a et que beaucoup de personnes n'ont pas la chance d'avoir ce que nous, on peut avoir, que ce soit même l'éducation ou l'école.
Ça montre qu'il y a beaucoup d'injustice, qu'ici on peut dire à peu près tout ce qu'on veut sans forcément être ciblé. Et lui, comme il l'a dit, avec sa famille, il y avait toute sa famille qui était dans une liste noire. En gros, ils étaient en danger constamment. Et pour moi, ce qu'il fait, c'est admirable. Franchement, c'est magnifique ce qu'il fait.
Ça se voit qu'en France, la liberté de la presse est vraiment présente. C'est vraiment une liberté fondamentale. Alors que c'est vrai qu'elle n'est pas forcément respectée dans les pays comme la Syrie, que c'est vraiment limite une dictature. Et c'est vraiment dommage parce que ça ne permet pas l'expression des gens.
Moi, je pense que en fait, c'est un journaliste qui a été oppressé, contrairement aux journalistes français qui se plaignent souvent, mais qui sont en réalité pas autant oppressés ou menacés comme lui.
Est-ce que ça vous donne envie de vous informer plus sur ce qui se passe ailleurs dans le monde ?
Oui, justement, j'aimerais... Maintenant, je vais essayer de m'informer plus sur les autres pays en guerre et tout. Parce que ici, à part les gilets jaunes et quelques conflits, on n'a rien de grave dans notre pays. Sachant qu'eux, ils vivent vraiment des événements graves dans leur pays.
Je pense que ça nous permet de voir qu'on a beaucoup de choses à apprendre encore, beaucoup de choses à savoir et que... il faut être intéressé, que certes l'école nous apprend des choses, mais c'est à nous-mêmes aussi de savoir les choses, de ce qui se passe dans le monde. Et je pense que moi, clairement, ça me donne envie de savoir clairement ce qui se passe.
On s'en rend bien compte, cette intervention d'un photojournaliste syrien devant des lycéens les a fait réfléchir. Mais pour les journalistes exilés accueillis à la maison des journalistes, cette démarche d'aller vers les jeunes est également utile pour leur reconstruction. Darline Cotière.
Le fait de raconter son vécu, de partager son histoire et d'avoir des gens en face de soi, des gens bienveillants, des gens qui sont dans l'empathie, psychologiquement, ça apporte quelque chose. Mais au-delà de cela, ces journalistes,
c'est ce qu'ils disaient, parce qu'on avait il n'y a pas trop longtemps une rencontre avec eux pour discuter justement de leur témoignage, hein, de ce programme Envoyé spécial. Ils nous disaient à chaque fois, c'est vrai que nous, on nous livre, on partage notre histoire, mais ça nous apporte beaucoup aussi, c'est très enrichissant pour nous, parce que ça nous permet de réfléchir davantage à notre métier, à la manière dont on doit l'exercer en toute objectivité, même si ça aussi, ça peut faire l'objet d'un débat, hein, des questions comme l'objectivité de l'information ou la neutralité dans l'information. Mais ils arrivent à se remettre en question, et en plus il y a une adaptation de leur discours aussi au public, parce que nous on tient à cette approche pédagogique également. Ça ne suffit pas de raconter une histoire, mais il faut qu'au final ça provoque quelque chose. Donc nos journalistes, ils travaillent sur à la fois leur message, ce qu'ils disent, et ils travaillent aussi en quelque sorte sur le métier, en fait, sur le journalisme, en se remettant en question, en mettant en perspective également tout ce qui se passe autour de nous, parce que certes, il faut dire la vérité, il faut raconter, mais avec tous les bouleversements sociaux, planétaires, etc., et avec les jeunes en ce moment qui sont submergés d'informations, parce qu'on vit quand même dans l'ère de l'infobésité, entre guillemets, donc il faut arriver à canaliser tout ça et à tenir un discours cohérent devant les jeunes, à leur faire comprendre toutes ces réalités, toutes ces difficultés, parce que il s'agit de notre monde, hein, au-delà de l'aspect journalistique. Voilà, il faut créer des passerelles, il faut faire ce travail d'information, ce travail d'éducation, et ça passe par la pédagogie, et nous on y croit.
Merci Darline Cottière.
Merci à vous.
Et je rappelle que vous êtes directrice de la Maison des journalistes qui accueille à Paris des journalistes exilés en France. Merci. Ajoutons que pour le 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, la Maison des journalistes prépare une exposition qui proposera des regards croisés entre journalistes exilés et des photographes de l'agence Magnum. Notez aussi que le quotidien Ouest-France éditera un journal à 40 000 exemplaires sur le sujet. La liberté de la presse est une valeur fondamentale qu'il faut défendre partout, en tout temps, même dans les démocraties où tout peut sembler acquis, parfois à tort.
RFI.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de mon blog audio. Sur son blog Un bonjour de Mada, Sergia Fenosoa a raconté comment elle a partagé sa passion du blogging avec des lycéens malgaches.
Récemment, j'ai eu l'opportunité de former des lycéens au blogging. L'objectif, inciter les jeunes à s'exprimer via les médias numériques, leur apprendre à savoir bien utiliser les nouveaux outils liés à l'Internet pour qu'ils s'en emparent. Le défi était de leur montrer l'importance de prendre la parole à l'ère des médias sociaux. À leur âge, quand j'ai commencé à bloguer, j'aurais aimé avoir des mentors pour m'accompagner dans mes premiers pas. Quelqu'un pour m'expliquer comment faire de bonnes recherches sur Internet, comment construire mon blog, comment rassembler mes idées avant d'écrire, ou encore comment promouvoir mon blog sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, grâce à mon blog, je suis libre de faire entendre ma voix au-delà des frontières de mon pays et de défendre des valeurs qui me semblent importantes. Le fait de vivre dans un pays très pauvre comme Madagascar ne constitue aucunement un frein à cette liberté. Et c'est le message que je veux leur transmettre. Dans un avenir proche, j'espère voir naître toute une armée de jeunes blogueurs malgaches, de jeunes blogueurs conscients des enjeux qui affectent leur pays et désireux d'exprimer haut et fort les idées qu'ils défendent. Ils feront entendre leur voix sur des décisions qui les concernent, ils plaideront les causes qui leur tiennent à cœur, ils dénonceront ce qui les révolte et ils connecteront Madagascar au reste du monde. N'est-ce pas là toute la magie du blog ? Dans le flot de misère sociale et de laxisme politique auquel nous sommes confrontés dans notre pays, grâce à cette formation, nous donnons les moyens à la jeunesse malgache de faire bouger les lignes. Petit à petit, les jeunes opèrent un changement des mentalités. Il est plus que temps pour Madagascar d'exploiter les médias sociaux afin d'être au diapason avec le monde. Et en tant que blogueuse formatrice, je crois que la relève est assurée pour les années à venir.
mondoblog.org.
À Madagascar, nous formons aujourd'hui les blogueurs de demain. C'est un billet de Sergia Fenosoa à retrouver sur son blog Un bonjour de Mada. Et rendez-vous sur mondoblog.org pour réécouter tous les mondoblogs audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Sarrazin et Camille Deloche, à la réalisation Simon De Creuse, Steven Jambeau au micro. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. D'ici là, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.